Lors du premier confinement, les libérations anticipées de certaines personnes en fin de peine et la forte réduction de l'activité des tribunaux et de la délinquance avaient abouti à une baisse inédite du nombre de personnes détenues dans les prisons françaises. Mais depuis l'été, le mouvement s'est de nouveau inversé. 62 260 détenus au 1er novembre, un taux d'occupation de 103%, alors qu'il était en dessous des 100% au sortir du premier confinement. Dans le cadre des journées nationales prison qui ont lieu en ce moment, nous recevons ce matin Dominique Simoneau. Bonjour.
Bonjour.
Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Culture. Vous avez été nommée à ce poste mi-octobre. Nous vous connaissions précédemment comme journaliste à Libération, puis au Canard Enchaîné, nous en parlerons. Les lieux de privation de liberté, ce ne sont pas que les prisons. Ce sont aussi, par exemple, les hôpitaux psychiatriques où des personnes sont internées sans leur consentement. Ce sont les centres de rétention administrative, les lieux de garde à vue ou encore les centres éducatifs fermés. Mais nous allons commencer avec les prisons, comme vous y avez commencé, éducatrice à l'administration pénitentiaire pendant 10 ans. Dominique Simoneau, vous avez alerté il y a 10 jours les ministres de la Justice, de la Santé et de l'Intérieur sur la situation en particulier dans les prisons en cette période de pandémie. Quelle est cette situation aujourd'hui? Comment la qualifier?
Personnellement, enfin, je suis pas la seule, je la trouve dangereuse. Parce que, si vous voulez, là, il y a quelque chose que je trouve tragicomique. J'entends dans les magasins, attention, vous serez pas plus d'une personne par 8 mètres carrés. Vous savez qu'en prison, les cellules font quelques 9 mètres carrés et que c'est souvent à 2 ou 3. Alors, je voudrais comprendre la logique qu'il y a là-dedans. Le garde des Sceaux a répondu à ma lettre en disant qu'il n'y avait pas trop de quoi s'inquiéter parce que il y avait, je crois.
Oui, s'exprimer notamment sur les clusters, les foyers de contamination, parce que vous aviez dit qu'il y en avait 80 en prison, et il a dit, en fait, à chaque fois, les clusters en prison, c'est 3 personnes, et donc, au final, ça représente pas tant que ça.
Bah, 3 personnes, c'est déjà 3 de trop, déjà. Alors, je ne sais pas si je me suis embrouillée dans les chiffres, ou si c'est lui qui est trop optimiste. Toujours est-il que, moi, j'ai eu au téléphone, et j'ai discuté beaucoup avec des directeurs de prison, qui me disent bientôt, on ne saura plus comment faire. Parce que comme la population augmente, dans les maisons d'arrêt, vous parlez d'un seul de 103%, mais en fait, il y a une quinzaine de maisons d'arrêt qui sont à plus de 150% de surpopulation. Et ces personnes me disaient, ces directeurs de prison me disaient bientôt, comme au retour, par exemple, des permissions de sortie ou dans le quartier arrivant où il y a des 14aines instituées, ben moi, je ne peux pas pousser les murs. Donc, je ne saurais pas comment isoler ces gens en 14aines. Comment je vais faire? Est-ce qu'il faudra supprimer les permissions de sortir? Ce serait une chose terrible. Et deuxièmement, les juges d'application des peines eux-mêmes se sont inquiétés et ont écrit au ministre pour leur faire part de leur inquiétude sur le même point, cette remontée de la population carcérale.
Mais alors, expliquez-nous pour qu'on comprenne. Au printemps, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu des ordonnances, donc c'est ça, prises pour accélérer les sorties. Alors, ça concernait ni les crimes ni les violences conjugales, mais c'était des personnes en fin de peine, pour des courtes peines, qui sortaient un peu plus tôt que prévu pour justement désemplir les prisons. Ça n'existe plus, ça, en ce moment, ça ne se passe pas. Pourquoi?
Ben pourquoi? Justement, je crois que comme le gouvernement est entré dans une phase de resserrement sur la sécurité et qui matraque, enfin c'est le cas de le dire d'ailleurs en ce moment, sur la sécurité, je pense qu'il a été frileux et qu'il a reculé devant le fait de libérer des gens de prison. Or je rappelle que, comme vous venez de le dire très justement, ces gens ont été libérés de prison à quelques semaines de leur fin de peine. Quoi, 1 mois, 2 mois. Donc, ils seraient de toute façon aujourd'hui libres, les gens qui ont été libérés grâce aux ordonnances du printemps. Et donc, je vois pas bien le gap qu'avait. Je comprends pas pourquoi on a été si timide, pourquoi le gouvernement a été si timide et si apparemment ayant eu si peur de recommencer. Alors que, de toute façon, on va devoir vider nos prisons. Puisque la Cour européenne nous a condamné par 2 fois cette année, la Cour de cassation a ordonné que des personnes en détention provisoire soient libérées en cas de conditions indignes de détention, et le Conseil constitutionnel a renchéri là-dessus. Donc c'est une occasion pour moi. Le Covid, c'est une occasion de continuer ces libérations anticipées qui ne font de mal à personne, qui font du bien à ceux qui sortent et du bien à ceux qui restent, en desserrant la promiscuité.
Alors, on va revenir sur la situation, effectivement, la surpopulation carcérale au-delà de la situation actuelle. Pour terminer, juste sur ce qui se passe vraiment précisément en ce moment, vous parliez d'Éric Dupond-Moretti. Quand il est devenu ministre, il a tout de suite parlé des prisons, des conditions de détention. Et là, récemment, il a transmis une note aux magistrats leur demandant d'éviter l'incarcération pour les peines courtes et pour les mineurs. Normalement, vous avez avec lui un allié sur cette question, non ?
Tout à fait, mais un allié, on peut le pousser aussi un peu à aller plus loin. Et je trouve qu'il a raison de s'adresser aux magistrats, parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas ni les surveillants ni les directeurs de prison qui envoient les gens dans les cellules, ce sont les magistrats. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment, notamment à travers la procédure de comparution immédiate, qui est une justice ultra rapide,
Et que vous avez beaucoup suivi,
qui est un peu mon dada.
Voilà,
j'ai suivi très longtemps. J'ai du mal à travers toutes ces audiences, ces 20 ans d'audiences auxquelles j'ai assisté, j'ai du mal à comprendre comment, quand on connaît l'état des prisons, comment les magistrats continuent à y envoyer des gens comme si cette situation n'existait pas. Moi, ce que je voudrais, c'est leur lancer
oui,
un.
Oui, mais les magistrats, ils pourront dire qu'ils sont pas responsables non plus de l'état des prisons et qui.
Ils ne sont pas responsables de l'état des prisons, mais ils sont responsables tout court, il me semble. Et ils sont gardiens des libertés, normalement. Est-ce que c'est normal d'envoyer quelqu'un qui a commis un vol, par exemple, dans une cellule de 3 personnes, absolument immonde parfois. Je vous ai apporté des courriers de détenus qu'on reçoit qui sont à ce sujet assez éloquents. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les magistrats ne devraient pas s'informer du taux d'occupation de la prison où ils envoient des gens? Est-ce que il y en a qui le font, vous savez, en se disant, ben, j'ai une palette d'alternatives à l'incarcération, cette palette est très large maintenant. Elle va des arrêts à domicile au sursis probatoire, en passant par la semi-liberté, c'est une peine, mais en passant par le travail d'intérêt général, etc. Pourquoi ne pas utiliser ça? Comme me disait une magistrate, il faudrait en fait plus d'énergie pour envoyer en prison que pour choisir une alternative. Or, en ce moment, c'est le contraire. La solution de facilité, c'est la prison.
Oui, la solution de facilité, peut-être, mais pas que cela aussi. Dominique Simoneau, vous le savez, effectivement, il y a des peines alternatives, il y en a de plus en plus des peines alternatives à l'incarcération. Mais on voit bien que, il y a aussi encore ancré dans les esprits ce sentiment que lorsqu'on a fait quelque chose de grave, la sanction, c'est la prison. Et que tout ce qui n'est pas la prison, ça n'est pas assez sévère. Et ça, est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez changer ça? Est-ce que ça se change, ça, cette conviction-là, qui est partagée quand même par beaucoup de monde?
Je pense qu'il faudrait qu'on montre plus, peut-être, ce que c'est qu'une peine alternative. Porter un bracelet électronique, par exemple, c'est extrêmement contraignant. C'est rentrer à certaines heures précises, sinon se déclenche un signal d'évasion, c'est vraiment respecter des horaires stricts, effectuer un travail d'intérêt général, c'est travailler gratuitement pour la communauté. J'espère que ces peines vont se développer et que on va sortir, c'est très juste ce que vous dites, dans l'esprit de chacun, la seule punition qui vaille, c'est la prison, mais c'est faux. C'est comme si vous me disiez, la seule punition qui vaille pour un enfant, c'est de le fouetter. Mais on peut auparavant le priver de dessert, comme dans le temps, l'envoyer au coin, je ne sais pas, lui faire réparer sa bêtise. Il y a mille façons de punir qui ne sont pas d'enfermer les gens.
Mais c'est aussi sans doute peut-être expliquer davantage, comme vous le dites, en quoi aussi consistent ces peines alternatives et qu'effectivement ça reste des peines. En tout cas, ce ne sont pas
C'est pas zéro, c'est pas des cadeaux qu'on fait en disant à quelqu'un, je vous remets en liberté, mais vous allez effectuer 180 heures de travail d'intérêt général. Ou vous allez porter un bracelet, ou vous allez être suivi pendant 3 ans par des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.
Alors, je l'ai dit, les lieux de privation de liberté, ce ne sont pas que les prisons, Dominique Simoneau. Quels sont les autres points d'alerte que vous avez identifiés depuis votre prise de fonction?
Ben, il y a dans les hôpitaux psychiatriques, vous savez, les gens justement dont vous parliez qui sont hospitalisés sans leur consentement et qui normalement doivent voir un juge qu'on appelle des libertés et de la détention, qui doit examiner si la mesure a été prise en respectant toutes les règles ou pas. Or, il semble que durant l'épidémie, ces juges aient été singulièrement absents. On a remarqué des endroits, l'équipe du contrôle général est en train de s'y pencher, des endroits où ces hospitalisations sans consentement n'ont pas été examinées. Ce qui est un peu compliqué vis-à-vis de la loi, puisque ça devrait être la loi. Je ne sais pas du tout comment la justice espère rattraper ça.
Mais vous allez vous pencher en tout cas.
Oui, on est en train de s'y pencher très sérieusement, oui.
Vous avez parlé aussi des lieux de garde à vue aussi dans votre lettre justement aux trois ministres dont je parlais.
Eh ben, j'en ai pas, parce que vous savez, quand on est journaliste, je n'avais jamais eu l'occasion de visiter des locaux de garde à vue pour de bon. Et là, j'en ai visité, et je vous assure que on entre dans les cellules en se demandant ce qu'on va attraper, au choix la gale, puisque j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient atteint de la gale qui avaient été là, des punaises, des puces, j'en sais rien. Le Covid, sans doute. Alors, on entre, c'est minuscule. Il y a deux personnes qui sont là. Moi, j'ai vu qu'il y avait, il y a un robinet d'eau au-dessus des toilettes. Il n'y avait pas d'eau qui coulait. La chasse d'eau était cassée. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Il n'y avait pas d'eau. Donc, vous savez, quand vous rentrez là-dedans, j'ai sincèrement plaint les types qui étaient là. C'est pas des et il y a les mêmes couvertures qui servent aux gardés à vue d'avant qu'aux gardés à vue d'après, et ils se refilent les couvertures. Maintenant, on vous dit il faut être 1 par 8 mètres carrés dans un magasin. Vous voyez un peu l'abîme qui est entre ça. J'ajoute que les policiers qui vivent là, ils m'ont dit, un m'a dit, il y a pas de mots pour décrire ce qu'on voit là. Il s'agissait d'un Algéco vieux de 10 ans, dans lesquels il claquait des dents. C'était l'hiver, c'était la nuit. Ils ont dit oui, on a honte de ce qu'on fait, on a honte de ce qu'on voit, et on a honte pour nous, eux-mêmes, et moi j'avais honte pour eux aussi, de ce qui, c'est pas possible.
Mais parce qu'il n'est pas inutile de rappeler que ce soit pour les lieux de garde à vue, mais comme les prisons aussi dont on parlait juste avant, quand on parle de la situation, des conditions de vie des détenus, on parle aussi des conditions de travail des surveillants.
Exactement. Quand on est un surveillant pour 110 détenus dans une coursive, je voudrais bien qu'un seul d'entre nous se mette à leur place et voit ce que ça peut être, comprenne ce que ça peut être. Ça doit être, mais terrible. Et je pense qu'une grande partie des violences est sans doute, qu'on voit en détention, est sans doute due à cet état d'exaspération montante des deux côtés, des surveillants comme des détenus.
Vous le disiez, Dominique Simoneau, vous avez pu vous rendre dans des lieux de garde à vue, ce que vous n'aviez pas pu faire quand vous étiez journaliste, parce que effectivement, ce qui va avec cette fonction de contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est justement que vous pouvez vous rendre dans tous ces lieux à partir du moment où vous le souhaitez. On ne peut pas vous le refuser. C'est effectivement une grosse différence avec le métier de journaliste. On va parler justement de cette différence et aussi de votre précédente activité de journaliste après la revue de presse des idées sur France Culture, puisqu'il est 8h30. Nous sommes toujours avec notre invité, Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Il en parlait au début de sa revue de presse, cette fameuse proposition de loi de sécurité globale et son article 24 dont on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Il y a des manifestations partout en France cet après-midi. Dominique Simoneau, vous avez fait la plus grande partie de votre carrière comme journaliste à Libération, puis au Canard Enchaîné. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi et est-ce que vous irez manifester cet après-midi?
Bien sûr, oui, j'irai à la manifestation à titre personnel, sans engager mon organisme, mon institution, mais à titre personnel, oui, j'irai. Et franchement, ce fameux article 24 là, à mon avis, il est plus près de la tombe que de la sortie. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Et franchement, c'est incompréhensible la manière assez cacophonique dont se sont déroulés et ces débats et même l'introduction de cet article 24. on comprend pas bien pourquoi. Après tout, si on juge que sur les réseaux sociaux, c'est honteux, ce que je trouve aussi, de divulguer les identités, les adresses et les photos des gens, ça s'applique à tout le monde, à vous, à moi, aux passants dans la rue, aux détenus dans sa prison, comme aux policiers. Il suffisait de faire un article en disant que c'était pas bien et que c'était punissable. Et pourquoi axer sur les policiers? Puis alors, il y a eu, évidemment, dans la semaine, deux faits terribles qui sont venus démontrer à quel point cet article pourrait être nuisible en empêchant de filmer les policiers quand ils tabassent les gens. J'ajoute qu'il y a eu un rapport, j'aimerais bien que mes anciens confrères s'en saisissent, il y a quelques années, un rapport qui a pas fait beaucoup de bruit sur le fait que beaucoup de policiers qui sont, je dis pas tous les policiers, parce que j'aime beaucoup les flics, je n'ai pas de problème avec ça, mais certains policiers arrondissaient leur fin de mois avec de fausses allégations de rébellion de la part des gens qu'ils interpellent, pour lesquels ils demandent des dommages et intérêts. Et je pense que c'est exactement cette procédure, elle aurait fini par aboutir à ce que les quatre policiers qui sont actuellement en garde à vue touche des dommages d'intérêt pour rébellion, insultes, etc.
Là, on parle donc les quatre policiers en garde à vue, c'est pour le producteur de musique qui a été
le producteur de musique.
Alors justement, Dominique Simonneau, vous, quand vous étiez à Libération, vous aviez révélé en 1993 les conditions d'hébergement indignes au centre de rétention du dépôt de Paris.
Oui.
Ça avait fait scandale, il y avait eu des suites. Qu'est-ce qui est le plus efficace aujourd'hui pour alerter sur une situation problématique et pour faire bouger les choses? Est-ce que ce sont des photos à la une, des vidéos sur les réseaux sociaux ou des avis de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ou de la défenseure des droits, par exemple?
À mon avis, ça se complète, hein, les deux. Si, par exemple, imaginez, je rendais un avis sur ce qu'on a vu en garde à vue, là, avec mon équipe, et que j'en parlais dans les journaux, ça ferait du bruit aussi. Mais je crois que la presse... Il faut travailler avec elle et je ne m'en priverai jamais parce que c'est un métier que j'ai adoré, le journalisme. Je pense que ça se complète et l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que j'ai besoin de la presse comme la presse a besoin de nous.
Mais la question, voilà, au fond, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté, en fait, de devenir contrôleur général des lieux de privation de liberté? Si vous avez accepté, ça veut dire, justement, que vous pensez que vous pouvez avoir, un impact sur le réel plus important que quand vous étiez journaliste. Qu'est-ce que vous attendez, finalement, de cette fonction?
Quand on me l'a proposé, j'étais la première surprise. À vrai dire, je suis tombée par terre, presque. J'ai commencé par dire non, et puis j'ai bien réfléchi, j'ai l'âge que j'ai, 68 ans. J'allais pas éternellement continuer ce métier de journaliste, enfin je me voyais pas rester journaliste jusqu'à je sais pas quel âge. En tout cas, je me suis dit, regarde, toute ta vie elle est contenue dans ce poste, tout ce qui t'a passionné comme journaliste, tous les sujets que tu as traités, ils sont contenus dans ce poste, alors peut-être essaye de faire... autrement, essaye autre chose pour faire parler de ces sujets qui me tiennent à cœur vraiment beaucoup, c'est-à-dire les sans-papiers, les centres de rétention, les prisons, les HP, les mineurs, la délinquance juvénile, c'est un vieux mot, la délinquance juvénile. Je me suis dit, vas-y, essaye, lance-toi. Et j'ai découvert d'abord une équipe incroyable, venant de tous les horizons, qui sont chacun dans leur domaine des experts. Franchement, ils me bluffent tous les jours. Et donc, je me dis qu'on va essayer, et j'espère réussir à faire du bon travail, et faire parler de
ça. Voilà, faire du bon travail
et que ça change.
Et que ça change les choses. Si je vous pose toutes ces questions, vous le savez bien aussi, c'est parce que voilà, il y a Claire Hédon, justement, la nouvelle défenseure des droits, elle a regretté récemment que les avis rendus par cette instance ne soient pas suffisamment pris en compte. Le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ici même, il y a quelques semaines, disait la même chose. La question, en fait, c'est comment ne pas être juste dans un rôle d'alerte?
Eh bien, écoutez, là, je suis arrivée il y a un mois, je réfléchis à tout ça. Non, mais sans blaguer, je réfléchis à quel moyen d'action après. Parce qu'on n'a pas de pouvoir d'injonction. Donc, il faut bien qu'on ait un pouvoir d'alerte à plus. Je me servirai de vous.
Vous parliez des sans-papiers, Dominique Simoneau. Il y a une célèbre de Libération qu'on a vu revenir ces derniers jours. C'est celle du lendemain du 23 août 96, lorsque les policiers étaient entrés dans l'église Saint-Bernard à Paris pour évacuer les sans-papiers qui s'y trouvaient. Avec cette citation du ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Debré, avec humanité et cœur. Vous aviez suivi ce mouvement, cette lutte des sans-papiers de l'été avec David Dufresne à l'époque, oui. pour Libération. C'est toujours risqué de faire des comparaisons, mais est-ce que vous aussi, vous avez repensé à cela quand vous avez vu justement lundi soir l'évacuation de la place de la République ?
Oui, sauf que finalement, quand j'y repense, vous voyez, l'évacuation de la place de la République a été plus brutale que l'évacuation de Saint-Bernard. Avec David, on dormait dans l'église, et cette une, elle est toujours affichée chez moi, donc c'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire, parce que c'était vraiment émouvant. C'était émouvant parce qu'on avait vécu avec les sans-papiers pendant un bon moment. Et les images que j'ai vues place de la République, elles étaient finalement encore plus dures que ce qu'on a vécu à Saint-Bernard. Encore plus dures. Parce que, je sais pas, le fait est là. Moi, j'ai vu ces policiers transporter les tentes avec quelqu'un dedans. Mais comme à Calais, d'ailleurs, moi, j'étais assez contente. Enfin, c'est entre guillemets, mais surprise aussi de voir que tout le monde s'étonnait de ce qui s'est passé place de la République. Mais je signale que tous les jours à Calais, dans ce qu'on a appelé la jungle et les petites jungles qui se sont reconstituées après la grande évacuation, c'est tous les jours comme ça. Hein. Les gens sont délogés à coups de pied dans les tentes, les affaires sont jetées. Vous devriez voir les associations qui œuvrent sur place, elles alertent en permanence là-dessus. Et moi, je suis allée à Calais très souvent dans ma vie de journaliste, il n'y a pas très longtemps encore, et j'ai interrogé des gens qui m'ont tous raconté comment ils se faisaient gazer à l'aube dans les tentes pour les faire dégager. Et on pique leurs affaires et on les jette, et les couvertures, on ne peut plus s'en servir parce qu'elles sont gazées. Voilà.
Et il y a autour de cette question des migrants, des réfugiés, de leur accueil, et aussi autour, par ailleurs, de la question des violences policières, des débats aussi qui existent sur, justement, et on en a parlé tout à l'heure dans la fabrique médiatique, sur où est-ce qu'on se place comme journaliste, voilà, des débats sur journalistes engagés, journalistes militants. Vous, est-ce que vous étiez une journaliste militante, engagée? Est-ce que vous êtes aujourd'hui une contrôleuse générale des lieux de privation de liberté militante, engagée? C'est quoi la frontière pour vous?
J'ai jamais été militante parce que ça m'a toujours... Je n'aime pas militer. Mais engagée, oui. Engagée, je le suis. Oui.
Quelle est la différence?
La différence, c'est que vous militez pour un mouvement, donc vous adoptez toutes les vues de ce mouvement et vous portez la parole d'un mouvement. Moi, en tant que journaliste, engagée, même comme journaliste tout court, je vois tout le monde, j'interroge tout le monde et je me fais mon idée et je retranscris ce que les gens disent. Policiers comme sans-papiers, personnel politique de tous bords. Et je trouve que on recoupe nos informations dans le métier de journaliste. Chez les militants, on est plus axé sur une idée qu'on porte. Moi, j'admire beaucoup les militants, hein, mais je n'aurais pas été capable de militer, je pense. Mais engager, c'est autre chose. Je pense que l'humanisme, l'accueil de l'autre... ce sont des valeurs énormes pour moi. Ça ne veut pas dire que je dirais pas que c'est militant. Beaucoup de gens qui ne sont pas militants pensent la même chose. Vous aussi d'ailleurs.
Et donc aujourd'hui, votre rôle de contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est un engagement aussi.
Bien sûr, parce que vous voyez, on est dans le contradictoire. D'ailleurs, c'est drôle parce que là, je suis allée visiter des locaux de garde à vue et un centre de rétention. Et ben on recoupe, on a ce qu'on voit, on voit les gens qui sont retenus, on voit les gens qui sont gardés à vue, on leur parle, on discute avec les policiers, on discute avec les responsables des centres, on discute avec tout le monde. et on recoupe, ça ressemble beaucoup au journalisme. Et on donne la parole à tout le monde, et dans nos rapports aussi, on donne la parole à tout le monde.
Des rapports qu'on peut retrouver sur le site de cette institution, oui, qui explique aussi d'ailleurs très bien comment vous saisir, puisque tout le monde, en fait, peut saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous restez avec nous, Dominique Simoneau, pour le dernier quart d'heure des matins du samedi. Il est 8h45.